En parlant d'artistes, donc on s'était arrêté à peu près en 87-88, la dernière fois.
On avait réussi à tracer toute la dizaine 80-90, et je m'apprêtais à en faire autant sur les années 90, tout en me disant, c'est pas possible, ça peut pas tenir en une demi-heure.
Mais si, ça tiendra. Mais si.
Non, là, d'autant pas. Mais c'est pas grave, on va essayer de donner la tendance générale déjà de cette décennie, c'est-à-dire qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les arts visuels. Peut-être petit rappel d'ailleurs, à une époque on disait les beaux-arts, après on a laissé tomber l'adjectif, on a dit les arts plastiques, qui étaient donc quoi, dessin, peinture, sculpture. Et on a ajouté donc la photo, la vidéo, l'art numérique, et donc sous ce terme générique, art visuel. Et donc, vu qu'Arock a toujours collé avec l'actualité quand même du moment, et bien dans cette décennie, on va voir arriver en force les arts visuels. Et même moi, si nous, on s'y était déjà intéressés avec le festival Vidéoclip,
ouais, qu'on avait évoqué,
déjà parlé.
Qu'on avait évoqué ici, hein. Qui était révolutionnaire donc, hein, à l'époque, il faut le dire, c'était subversif tout ça encore. Hein,
mais ça continue à l'être, j'espère, pour eux. Faux.
Bah, en tout cas, la vidéo est restée, puisque, petite parenthèse, j'ai eu la chance, on s'est vu d'ailleurs ce soir-là, d'aller à Record les Murs numéro 3, et il y avait de la vidéo pour le coup, mais là, pour le coup, c'était habituel, mais c'était presque normal finalement, alors qu'à l'époque, ça l'était beaucoup moins. C'était un vrai parcours, ça faisait partie, hein. Moi je me rappelle dans les années 90 de Hard Rock, où c'était l'un des arguments devenu, d'abord parce que c'était, bah, même si vous n'aviez pas de billets pour aller voir des concerts, bah, on pouvait aller voir tout ce qui était art visuel, justement, art vidéo, et c'était de la recherche. Vous aimez bien la recherche quand même.
Nous, bah oui, par définition, sinon on ne fait pas un festival, hein, si c'est pour
ronronner. J'en connais qui sont plus dans des zones de confort, hein, je te rassure.
Non, et puis on a commencé cette décennie par une super belle expo d'un mec qui s'appelle Von Oliver, qui est britannique, et qui est, pour vous donner une idée, le graphiste du label 4AD, qui est ses Pixies, ses Cocteau Twins, ses Lush, enfin ce sont des gens comme ça, et lui faisait partie intégrante d'un projet d'un musicien, c'est-à-dire que c'était obligatoire de passer par lui, mais c'était pas vécu comme une contrainte par les musiciens. J'ai lu plein d'articles de témoignages, car il est décédé récemment d'ailleurs, où ils jouaient le jeu parce qu'ils étaient honorés que leur pochette soit imaginée par Von Oliver.
Tu disais Pixies, c'est ça?
Pardon.
Tu parlais de Pixies, donc c'est lui qui a fait le singe là.
Le fameux singe, bien sûr.
Voilà,
Little s'appelait l'album. Et bah tiens, parlons-en de ce singe. Il avait une auréole, et c'était dans une ambiance mi-macabre, mi-ludique. Il avait beaucoup d'humour, Von Oliver. Il a fait aussi pour Cocteau Twins, il faisait des choses assez floues, assez surréalistes. On peut assez le rapprocher de quelqu'un comme David Lynch ou Dali. Enfin, c'était toujours très abstrait.
Un peu de technologie
et nous, cette génération-là, notre génération, en fait, c'était notre première rencontre avec les arts visuels, parce que pour les plus jeunes auditeurs, peut-être rappeler qu'à l'époque, pour écouter de la musique, on achetait des disques, qu'il fallait tourner d'ailleurs pour avoir la face B au bout de 25 minutes. Et notre première rencontre avec le disque, c'était la pochette. Et on a vu, bien sûr, d'abord toutes ces photos de groupe, etc. Mais sauf qu'il y a des graphistes qui se sont questionnés, et dont Von Oliver, il a été vraiment pionnier pour dire, mais on peut faire des belles choses, on peut faire de l'art. Et il crée des caractères, enfin des caractères typographiques. C'était quelqu'un de très, très inventif, ouais. Et donc le CRDC de Nantes, pour arriver au lien avec Arock, a eu la bonne idée de créer une superbe expo de ses œuvres.
C'était quoi le CRDC ?
CRDC, Centre Régional de Développement Culturel, je pense. D'accord. Que c'est comme ça, quelque chose comme ça.
Très bien.
Qui d'ailleurs a donné lieu après à la création de la SMAC. Enfin, ouais. Ce sont des gens du CRDC qui ont créé la SMAC. Et donc Jean-Michel Boinet est tombé sur cette expo, et bien sûr on a tout fait pour réussir à la présenter, tellement elle était magnifique, quoi. Et en plus elle a été accompagnée d'un catalogue absolument superbe, qui est devenu collector d'ailleurs.
Oui, je veux bien te croire.
Ouais.
Oui. Tiens, j'en profite puisque Hélène et Léonore sont restées avec nous. Une pochette, vous y pensez quand vous faites, même aujourd'hui, on sait bien que c'est dématérialisé, c'est tout ça, mais quand même ça fait partie aussi du processus de savoir ce qu'il y a un visuel qui va accompagner Hélène.
Oui, complètement. Ça fait partie de l'univers d'un artiste. La création visuelle aussi, ça rapporte vraiment une patte qui est très importante. Ouais.
Et toi, Léonore ?
Moi, je pense qu'on est dans une ère visuelle, donc on ne peut pas faire sans y penser. Et effectivement, moi, par exemple, j'ai dessiné moi-même la pochette de mon disque, et le fait de le dessiner, et c'était un processus aussi où je me mettais dans l'ambiance du disque, je ne sais pas comment dire ça. Et puis quand j'écris, j'ai des images.
Mais finalement, à l'époque, c'était moins évident, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu ce souvenir des années 80-90, où c'était pas que fun, hein. On avait des musiciens d'à côté qui s'intéressaient pas forcément à l'art.
Exactement,
pas comme,
c'est pour ça que vos interventions sont intéressantes, parce qu'elles sont typiquement actuelles. Mmh. Une fois encore, on a connu une époque où le musicien jouait de la musique et se posait absolument pas la question de son identité visuelle. Mmh. Et vous êtes à fond, bien sûr, dans l'époque, et vous la posez de façon pertinente, bien sûr.
Et ça, c'était, ben ça aussi, c'est important pour Art Rock, moi, je trouve, d'avoir réussi à casser les cloisons, pour le coup. Parce que les musiciens, ils étaient obligés d'aller voir un peu les expositions, les spectateurs qui venaient pour la musique, aller voir des expositions.
Oui, et puis le designer dont je parlais tout à l'heure, lui, jamais n'aurait fait une pochette pour un quelconque groupe sans se baigner, s'imprégner complètement de la musique. Je veux dire, le fameux singe qu'on mentionnait tout à l'heure pour les Pixies, c'était un hommage à un des titres de l'album.
Ouais.
Et il s'en imprégnait complètement. Il était lui-même dit, j'ai failli être musicien en fait, mais finalement il a été designer, mais il a failli être musicien, oui.
Designer, plasticien, inclassable aussi encore. Lui aussi, donc on a pu voir ses œuvres à Art Rock, c'était dans les années 90.
C'était en 1990 précisément. Voilà, ouais, oui. Après, l'année d'après, on avait découvert Robert Malaval. J'en ai parlé lors de la dernière émission, quand on a fait lèche-vitrine dans les vitrines des commerçants. Je vous ai mentionné ce meuble blanc qui faisait partie de toute une exposition d'ailleurs de sa part, qui s'appelait Les éléments blancs, si j'ai bonne mémoire, ou Aliments blancs, enfin peu importe. Et donc nous, on a carrément fait une expo des œuvres de Robert Malaval en complicité avec son fils Christophe Malaval et une galerie à Paris, Baudouin Le Bon. Et cette expo s'appelait Paillettes et Pastels. Et Robert Malaval est typique des artistes qu'on aime à Art Rock. Il était punk, il était lui-même musicien, il était aussi écrivain, il était peintre également. Donc vous voyez toutes les palettes d'expressions qu'il pouvait avoir. Il s'est suicidé bien trop tôt, à l'âge de 40 ans. Pourquoi je parle de son suicide? C'est parce que j'adore le mot qu'il a laissé, et qui décrit bien le bonhomme. J'aurais normalement bossé comme un con en usine, et en fait, je me suis bien marré. J'ai pas envie de mettre le moindre ordre dans mes affaires, j'en ai rien à foutre, et je vous emmerde tous.
Oh, c'est magnifique.
C'était un dandy punk qui disait toujours « je ne suis pas de ligne », ou alors « ma ligne, elle est zigzag ». Et c'est typique. Pour la petite histoire, par exemple, une de ses amies, c'était Bernadette Lafont.
Oui.
Et il a fait des pochoirs avec elle. Donc il a essayé comme ça plein de techniques différentes. Et un jour, il a rencontré ce qu'on appelait le glam rock. C'est quoi? C'est Bowie. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre référence?
Pas MC5, mais comment il s'appelle? T-Rex, ouais.
Voilà, des gens comme ça. Et du coup, il s'est familiarisé avec l'aérographe, avec ses nouvelles techniques. Et d'où le titre de l'exposition, Paillettes. Je vais pas l'avoir, Paillettes et Pastel.
Et donc, nous, c'est.
Et nous, c'est cet aspect-là, assez pop art, qu'on a mis en avant sur cette exposition. Donc, ça, ce sont des expos qu'on présentait, bien sûr, au CAC, puisqu'on avait enfin le droit d'occuper cette institution culturelle.
Ancêtre de la passerelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas connu. En tout cas, c'est vrai que c'est aussi un lieu de galerie d'art. Et puis, je reviens un peu comme sur cet aspect. Tout ça, c'était complètement accessible, c'était gratuit, c'était important aussi que le moindre quidam puisse assister à des œuvres pareilles, quoi.
Ouais, ça a toujours été au cœur d'Art Rock, ça, c'est d'avoir des propositions gratuites et à côté des propositions payantes pour ouvrir large public, avec toujours ce doux rêve que ceux qui vont rentrer par l'expo ou par le théâtre de rue vont être curieux et ensuite payer leur billet pour aller au concert, mais ça,
mais encore,
c'est un doux rêve qui anime toujours le festival et toutes les structures culturelles d'ailleurs.
Mais il faut se battre pour ça. Léonore, Hélène, vous avez des souvenirs comme ça d'expositions sur Art Rock, parce que vous êtes un petit peu briochine quand même, au moins de cœur.
Oh oui, des souvenirs qui remontent, qui commencent à remonter déjà.
Pas 1983 quand même.
Quand même pas 83, mais je dirais 2002, 2003, 2004, 2005. Moi, Art Rock, c'est le premier festival où j'ai mis les pieds. Et donc, je pense que c'est les seules fois où j'allais au musée dans l'année d'ailleurs.
D'ailleurs, pour aller au musée, c'est aussi. Il y en a une très belle exposition, je rebondis, puisqu'il y a une exposition sur les 50 ans du Juin français, enfin, vivre avec le Juin français, puisqu'elle s'appelle comme ça, je vous invite à y aller. Léonard, t'as des souvenirs visuels comme ça de Art Rock aussi?
Bah écoute, moi je suis pas du côté de Saint-Brieuc depuis très longtemps, donc j'ai été une fois dans ma vie à Rock, effectivement. J'avais été assez bluffée par le côté aussi visuel des expos et tout ça, mais
on va être obligé d'offrir le livre à Léonore.
Ouais, Je suis arrivée il y a 4 ans, il y a 3 ans et demi. Donc...
Ah, mais il y a des gens qui viennent de partout, de toute la France.
Je ne connaissais pas avant, je suis un bébé briochine.
Il y a des bateaux.
Donc, pour revenir à Malaval, quand même, ouais, c'est, bah, c'est, oui, il est magnifique ce mot, tu fais vraiment bien de le dire. Et là aussi, c'est bien, facu aussi, de temps en temps, un grand fac au moment de partir, de dire je vous emmerde tous. Balèze, bravo, chapeau l'artiste.
C'est avec du recul, maintenant, ceux qui suivent un peu l'évolution des arts plastiques savent que Robert Malaval est un grand nom, enfin, qui compte. Pas aussi grand nom que celui que tu mentionnais tout à l'heure de Warhol, mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans tous les musées, qui, enfin, c'est, et avoir eu la chance d'avoir cette grosse expo, c'était une grosse expo, très, très conséquente. C'était vraiment un événement pour Saint-Brieuc, ouais.
Et cet événement, il a. Ouais, après, c'est ce que je voulais dire, vous avez gardé des liens, parce que tu parlais de son fils, etc. Après, c'est des liens qui sont poursuivis, parce que je sais que Jean-Michel et toi, vous aimez bien aussi avoir. Bah, c'était aussi des histoires d'amitié, des histoires d'affection. Mm-hmm. Ces liens, ils sont poursuivis après.
Ben non, je veux dire, on collabore. Là, on est passé par une galerie, la galerie, ouais, Baudouin-Lebon à Paris, qui présente le fils. Enfin, bon, on a le temps de monter le projet. Parfois, on garde des liens. Je pense à un Indonésien, Eddie Ara, tiens, je fais du coca. Alan, chronologique en tous les cas, qu'on avait sollicité pour faire le visuel d'Art Rock. Alors, en quelle année c'était ça déjà plus?
Prends cette petite note, Marie. Bah, oui, il y a beaucoup de souvenirs. Bah, oui, forcément.
Cœur. Oh là là là. C'est en 1990, vous voyez. Et Eddie Ara était un type absolument charmant. On a gardé longtemps, longtemps, voire même encore, je le suis sur les réseaux sociaux, des relations avec lui. Il était venu avec sa femme et tout. On garde parfois des relations avec des artistes, oui.
Et ça, c'est important. Il y a quelque chose aussi qu'on ne souligne pas assez, c'est que c'est des artistes. Alors, on parlait de musées tout à l'heure. Les musées, ils sont remplis de toiles d'artistes un peu anciens, qui ne sont plus forcément de ce monde. C'est beaucoup des artistes contemporains, quand même, qui venaient à Rock. C'est des artistes qui sont toujours en activité, en tout cas, qui étaient en activité au moment où vous les invitiez.
Par définition, oui, c'est l'art contemporain qui nous intéresse, mais l'art contemporain peut aussi questionner l'art classique, enfin, je veux dire, c'est en lien, enfin, je veux dire, c'est pas ex nihilo comme ça, l'art contemporain, ça part quand même, ne serait-ce que sur les techniques, elles sont similaires, enfin, pas les arts visuels, je me contredis, mais bien sûr que c'est l'art contemporain, c'est aujourd'hui, maintenant, qui nous intéresse, avant tout.
On revient quand même à la vidéo, c'est vrai qu'à l'époque, c'était totalement expérimental, il fallait quand même aussi, alors aujourd'hui c'est simple, il y a des écrans LED, des petites ampoules, tout ça est très léger, sauf qu'à l'époque, il y avait un peu plus de matériel, il fallait trimballer tout ça, ça coûtait cher.
Ça coûtait cher, quoi donc
De faire venir comme ça des artistes visuels, les exposer sur des écrans
cathodiques. Oui, enfin, surtout le festival qu'on a dû faire pendant une petite dizaine d'années. Justement, oui, au bout d'un moment, on a été obligé d'arrêter pour des raisons financières. On n'avait plus les moyens de faire notre petite télé. C'est évident, même si on avait des sponsors pour avoir du matos, etc. Mais bon, quand même. Mais après, on a découvert un super rendez-vous de l'art visuel, enfin de la vidéo à Barcelone, qui s'appelle, ouais, Art Futura, mmh, qui était un grand, grand rendez-vous international. Il y avait les Japonais, les Américains, etc. Et on s'est rapproché des organisateurs pour réussir à présenter à Saint-Brieuc le best-of de leur festival. Et donc, ils nous concoctaient comme ça à plusieurs reprises. Et on a commencé ça en 1993. Ils nous concoctaient un programme d'1h30 d'images, mais complètement... complètement nouvelle, complètement incroyable. On a eu le premier court-métrage en 3D qui a été réalisé au monde, qui a été réalisé par Möbius d'ailleurs. C'était juste un court-métrage parce qu'en fait, le projet était d'avoir un long-métrage, mais pour la petite histoire, le producteur est décédé, donc ça a capoté tout. C'était complètement magique de voir ces images-là. On ne les connaissait pas, les images numériques, les images en 3D.
C'était révolutionnaire.
C'était complètement révolutionnaire. Et ben, dès, qu'est-ce que j'ai dit, 1993, c'était à Saint-Brieuc, au Festival Art Rock.
D'ailleurs, il y a des liens avec Barcelone quand même, hein, parce que Foura...
Mais c'est lors d'un déplacement à Barcelone pour la Foura que Jean-Michel a entendu parler d'Art Futura, qui avait juste 2 ans quand on les a découverts. Maintenant, c'est devenu c'est arrêté. Et après, d'ailleurs, on s'est rapproché d'un autre festival à Monte Carlo qui s'appelle Imagina.
Oui, ça je m'en souviens.
Et on a eu un programme comme ça pendant des années, un best-of de ce qui se faisait de là, aujourd'hui, maintenant, dans l'art vidéo.
Et donc à l'époque, c'était. Alors aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est des ordi qu'on branche, c'est facile, il y a une vidéo proche.
Oui, non, mais là on loue un programme, ouais, c'est quoi. Ça, voilà, oui.
Il n'y a pas que les USB. Mais il y avait surtout quand même beaucoup d'originalité. Tu dis Möbius, alors Möbius, pour ceux qui. Si vous connaissez Möbius, vous qui nous écoutez, quand même, hein, tu crois? Ils connaissent pas.
J'imagine, oui.
Un grand de la BD.
Les jeunes s'intéressent à la BD, quand même.
Bien sûr, un immense de la BD. Et qui était aussi un maître des arts visuels, bien sûr.
Ouais, si vous voulez regarder le court-métrage, j'ai vu qu'il était sur Internet, ça s'appelle Star Watcher.
Star Watcher, qui était donc à Rock en 1993.
Ouais, voilà. Incroyable, oui. Après, donc, on a enchaîné avec des découvertes incroyables. Je me rappelle de ce Ken Butler, qui était plasticien, musicien, lui aussi, et qui détournait des objets, j'allais dire familiers. Ça peut être une brosse à dents, ça peut être une hache, ça peut être un arrosoir, etc. Il les détournait et il créait des instruments de musique complètement hybrides. Et il faisait le pari d'en jouer.
Ouais.
Donc, nous, on a exposé ces instruments hybrides qui avaient une valeur esthétique en soi, enfin, plastique. D'abord et avant tout, et qu'elle fut pas la surprise du public quand il a été convié à un concert carrément de Ken Butler, et il a prouvé que oui sa hache qu'il avait transformée en violon sortait un son absolument magnifique. Et d'ailleurs il a collaboré avec des gens comme Laurie Anderson, avec des musiciens du Gnawa, avec des gens de ce niveau-là. Parce qu'il était d'abord et avant tout musicien.
Il était
ça
musicien.
C'était en quelle année déjà? 1994.
Laurie Anderson qui était de retour dans l'actualité, je crois qu'elle était décorée ou quelque chose comme ça.
Ah ouais. On les décore maintenant.
Tu me l'enlèves de la bouche, c'est vraiment ça. Il y a toujours un ministre qui a des petits souvenirs. Enfin, en tout cas, bravo Laurie Anderson, parce qu'aller réécouter là encore pour l'époque, c'était vraiment de l'avant-garde.
Ah, il avait travaillé avec John Zorn aussi.
Ouais.
Ben voilà, les gens du free, les gens qui vont chercher un petit peu ailleurs, des choses différentes.
Qui font des instruments brosse à dents, voilà.
Ouais. Et après, donc, on a beaucoup invité les gens qui étaient. Vous avez remarqué, et tu le rappelais récemment, Marcus, qu'on a toujours attaché beaucoup d'importance aussi à l'identité visuelle du festival.
Oui.
Et donc, à chaque fois, on fait appel à des artistes. J'ai rien contre les agences de publicité, mais on préfère d'abord mettre en avant un artiste, son œuvre. Et d'ailleurs, bien souvent, en découle une exposition.
Oui.
Et donc, on a eu plusieurs expos comme ça, dans ce style-là, pour permettre aussi au public de ne pas se limiter seulement à l'affiche ou aux t-shirts, etc., à tous les goodies, mais d'aller aussi au-delà et de découvrir une œuvre, quoi. Et ça a commencé avec Goran Tajevski, qui était d'origine yougoslave, qu'on a découvert grâce à l'agence Vue, dont j'ai déjà parlé,
oui.
Christian Cojol. Bah, c'était une première collaboration avec eux. Et ce type, il était incroyable. Il était capable de nous faire ce visuel avec deux pavés qui étaient superposés, reliés par un seul fil, entourés de deux enceintes. Et truc complètement improbable, complètement surréaliste. Et donc, on a fait cette expo. Je me rappelle notamment, par exemple, de deux fourchettes qui sont enlacées et elles sont rejointes par un spaghetti qui est noué, et il appelle ça le mariage italien. C'était une des photos, par exemple, qu'on a pu exposer, donc plein d'humour, ce Goran Tajevski. Et après, donc, on a continué comme ça à inviter les différents graphistes à exposer également. Je me rappelle de Dadara, 1998. Lui, il était hollandais. Il nous a fait deux affiches, d'ailleurs, celle de 1998 et celle de 2001. Tellement on a aimé ce qu'il faisait.
C'était pas lui les ballets un peu?
Ah non, le ballet c'était un artiste local.
C'était un artiste local.
Oui.
Eh ben, c'était très bien ces ballets. Je m'en souviens.
C'était pour les 10 ballets, c'était pour les 10 ans.
Ouais.
Donc on avait fait 10 ballets. Ouais, voilà.
En tout cas, comme je suis désolé, le temps tourne encore très vite, Marie. On poursuivra un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment passionnant ces histoires de plasticiens. C'est aussi le monde entier qui vient à Saint-Marieux, mais ça fait partie de l'ADN de Hard Rock. Mais là, pour le coup, c'était en plus des plasticiens de sacrée haute qualité qui sont aujourd'hui dans des musées, qui sont aujourd'hui voilà plein d'argent peut-être pour certains, ce qu'on leur souhaite après tout. Mais vous les aviez repérés parce que vous aimiez ça, quoi.
Mais complètement, mais on faisait Hard Rock pour se faire plaisir d'abord et avant tout.